Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Luc Desormeaux au micro et cette semaine encore une fois, j'animerai cette magnifique émission sur l'automobile avec mon collègue et mon ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc.
Salut mon cher.
On va essayer de t'introduire comme un joueur de hockey la prochaine fois, mais c'est parce qu'il manque,
ouais, mais...
il manque parce un que là, peu c'est... de oomph puis d'applaudissements comme au Centre Bell, mais bon.
C'est ça, mais tu sais que, bon, je fais des chroniques radio sur différentes stations là, tout au long de la semaine, puis il y a des stations de radio qui ont maintenant des setups d'enregistrement d'applaudissements quand ils me présentent. Je te dis ça, moi je dis rien.
Mais tes radios ont du budget, eux autres, pour s'acheter de l'équipement. C'est pas vraiment le cas de l'émission ici présente. C'est comme on roule à budget zéro, mettons. C'est comme j'écoutais un podcast cette semaine, puis les gars avaient des idées de films. Ils disaient, ah, on devrait faire ça, puis on devrait faire ça, puis on devrait faire ça. Puis on a un méga budget de 0 million de dollars, donc on peut se lancer dans notre projet. T'sais. C'est à peu près ça ici à l'émission. On a des budgets faramineux de 0 million de dollars. Ou même 0 000, ou 0 100, ou même 0 dollars. Mais bon, on peut descendre rapidement. Dans le fin fond, c'est zéro. Donc, Marc, on va commencer par nos essais de la semaine. Hein? Tu vas nous parler d'un véhicule que je vais essayer un peu plus tard au courant du printemps, qui est la Volvo S60, toute nouvelle version d'une voiture Volvo. Et puis moi, je vais parler de la voiture dont j'avais possession la semaine passée, qui est la Toyota 86, anciennement connue sous le nom de Sion FRS. Puis après ça, on va revenir avec des nouvelles. Donc, Marc, on va commencer tout de suite avec toi. Hein? La beauté, l'âge avant la beauté, qu'on dit, dans tout cas. Puis on va y aller avec l'essai de la Volvo.
Veux-tu vraiment que je réponde à ça?
Non, t'es pas obligé. Donc, on va y aller avec ton essai de la Volvo S60. Dis-moi un peu à quoi m'attendre quand je vais l'essayer dans quelques semaines.
Ben, il faut dire que Volvo, on le sait, on le dit souvent, c'est une marque qui a progressé énormément au cours des dernières années, depuis que Geely a décidé d'investir.
Assez fulgurant.
Oh oui, c'est assez fou, là, ça n'a vraiment pas de bon sens. Ceci étant dit, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. J'aime la personnalité des véhicules Volvo.
Ouais. Okay.
Du point de vue du look, par exemple, tu sais, c'est sobre, il n'y a rien d'exubérant, il n'y a rien de très flyé dans ce véhicule-là. On utilise, bien sûr, les fameux phares en marteau de Thor. Mm-hmm. Je trouve ça de toute beauté comme nom. C'est tellement scandinave comme approche, en tout cas. Alors, les phares qui sont des espèces de T couchés sur le côté, ça donne vraiment une personnalité assez unique à l'ensemble.
OK. Ouais.
Évidemment, dans le cas de la S60, bon, on va rappeler rapidement, là, si jamais vous connaissez pas trop Volvo, ils ont trois grosseurs de véhicules, les 40, les 60 puis les 90, les 60 étant les intermédiaires, vous l'aurez compris. Mm-hmm. Le S, ben, c'est pour sedan, c'est la berline. Il existe aussi les V qui sont les familiales, puis les XC qui sont les utilitaires sport.
Ouais, c'est assez simple, un coup tu comprends le principe, là, c'est quand même assez simple.
Exactement.
Un peu plus simple que chez Mercedes, mettons.
Je sais pas de quoi tu parles. En tout cas, mais sérieusement, effectivement, mais c'est assez simple de comprendre aussi que si on vous parle de la S60, on vous parle donc de la berline intermédiaire, un créneau qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence à tous les niveaux, je dirais. Ouais. Autant du côté des véhicules de luxe que du côté des véhicules d'entrée de gamme. Donc, c'est particulier. C'est vraiment... Moi, je pourrais dire, on est vraiment dans un monde où, même si ça se vend pas, on dirait que c'est l'image même d'une marque qui se dégage de cette catégorie-là.
Ouais. C'est un peu la voiture fort, mais c'est la voiture fort qui se vend pas. C'est comme mettre quelque chose en... Regarde, on est capable de faire ça, mais achetez-en pas nécessairement. Ou on aimerait ça que vous en achetiez, mais personne ne le fait. Mais voici ce qu'on peut vous offrir. C'est pareil comme avec la Accord et les autres modèles de voitures comme ça qui... Elles sont super belles, sont super compétitives, mais les ventes ne sont pas là.
Parce que
les gens veulent des VUS.
Exactement. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'actuellement, c'est donc un véhicule que j'aime beaucoup. C'est un véhicule qui est très beau, mais c'est un véhicule qui est particulier en termes de conduite et particulier aussi en termes de décor intérieur. Tu le sais, tu t'es assis dans une Volvo, ça donne vraiment un look unique comme style, on est vraiment dans le look épuré là, des Scandinaves.
Ouais, ouais.
Alors, ceci étant dit, c'est quand même une des voitures les plus confortables de son créneau. Chez Volvo, on a misé toujours sur deux éléments très particuliers qui sont la sécurité et le confort des sièges. Et dans les deux cas, on est encore tout à fait dedans. Les conforts des sièges, pour moi, les sièges Volvo, c'est encore parmi les meilleurs sièges de toutes les catégories confondues. On a vraiment un support incroyable, on a vraiment un confort incroyable et ça permet donc un usage intéressant, peu importe tes dimensions, je dirais.
Ouais. Ils ont toujours, ça a toujours été ça pareil chez Volvo, hein? Même dans le temps où les voitures étaient affreuses à regarder, les sièges étaient toujours, ont toujours été confortables, ça a toujours été leur point fort.
Exactement. Okay. Exactement, c'est ce que je dis. C'est, ça a toujours été une de leurs caractéristiques.
Ouais, c'est ça.
La deuxième, évidemment, ben, c'est la sécurité. Sécurité qui est aussi mise de l'avant dans la S60, là, avec la totalité des gadgets que tu peux t'imaginer, incluant, par exemple, les systèmes de sécurité en électronique embarqué, là, la détection, l'aide au maintien en voie ou le régulateur de vitesse intelligent ou le fameux City Safety. Le City Safety qui, comme on le rappelle, est un système qui permet à la voiture, en fait, de s'arrêter complètement si jamais elle sent un danger. Donc ça fonctionne très bien chez Volvo, ça marche très bien. C'est encore dans les caractéristiques.
Okay.
L'autre particularité, ben, c'est évidemment le fait que même si on parle d'une voiture, et ça m'a bien fait rire, là, même si on parle d'une voiture qui porte le nom de T6,
ouais.
Hein, c'est surtout pas un 6 cylindres.
C'est un 4. C'est un 4 cylindres. Parce que les T8, c'est des 4 cylindres turbo. C'est mélangeant un peu. Là. C'est même pas.
Un peu.
Les T8, c'est des 4 cylindres avec hybride normalement, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Ouais, c'est ça.
Et les T6, ben, c'est des 4 cylindres turbo aussi.
Ouais.
Tu vois, moi, j'avais. Non, pas d'hybride. Tu vois, moi, j'avais la version Air Design, qui est la version un peu plus sportive, qui vient avec un 4 cylindres 2 litres de 316 chevaux, 295 livres-pieds de couple, et c'est un turbo et surcompressé. Donc, ça marche en tabarouette. Mm-hmm. Je peux te le dire, ça marche en tabarouette.
Ça se conduit comme une petite berline, c'est ça qui est drôle.
Exactement. Ouais. Et la boîte de vitesse automatique 8 rapports, elle est extrêmement efficace dans ses réponses, dans la façon dont elle répond. Donc, ça fonctionne. Je dirais que ça fonctionne assez bien. Ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on a voulu créer quelque chose d'un peu plus sportif avec la Air Design. En revanche, on a mis un bruit de moteur qui est amplifié électroniquement, puis ça sonne un peu cacane. On n'a pas cette sensation-là qu'on aime tant de moteur qui ronronne. On n'est pas là du tout.
Ouais.
C'est un peu dommage parce que dans l'ensemble, pour le reste, c'est vraiment un véhicule que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime le look, j'aime la conduite, j'aime la tenue de route, j'aime le dynamisme de conduite. Évidemment, quand je l'ai eu, il faisait moins 92, fait que c'est un peu moins facile d'aller tester certains éléments, mais ça a été très agréable. Et même, je suis obligé de te donner un peu raison, là, parce que je sais que tu chiales tout le temps là-dessus, le grand écran au centre de la console qui donne accès à tous les systèmes de navigation et tout, là, ça finit par être un peu compliqué et un peu dérangeant, mais c'est pas mal le seul gros défaut que j'ai trouvé à ce véhicule-là.
Ben c'est le seul gros défaut que j'avais trouvé au XC40 puis au XC90 aussi, c'est comme c'est au XC60 que j'avais eu. C'est juste ça, c'est que le système est un peu mal designé. Il aurait fallu mettre des catégories, puis après ça, c'était des sous-catégories, mais c'est comme un peu pêle-mêle sur l'écran. J'imagine que la personne qui se l'achète après quelques semaines est habituée, puis c'est exactement où les choses sont. Mais quand t'as une voiture pour une semaine, la semaine d'après, t'as d'autres choses. Même si dans deux semaines, tu reviens dans un Volvo, oublie ça, là, t'as plus conscience où ce qui sont tes choses.
Non, puis théoriquement, ils sont divisés par catégories, mais les catégories ne sont pas toujours évidentes, je te dirais. Là.
C'est ça. Mais pour le reste, depuis les quelques véhicules Volvo que j'ai essayé à date, ça a toujours été des véhicules très, très convaincants, là, côté conduite, côté confort et tout ça. C'était vraiment juste ça. C'est le côté côté système de divertissement qui me dérange un peu. Mais bon.
Ouais, effectivement.
J'ai l'impression que ça sera pas différent dans S60 quand je vais l'avoir, parce que tu me dis exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Mais bon.
Ouais, ben c'est ça, je te donne raison. Le profite-en, c'est rare.
Je vais mettre un petit X sur mon calendrier.
T'es mieux.
Ouais.
Effectivement. Ouais. Toi, t'es allé dans quelque chose d'un peu plus sportif cette semaine.
Un peu pas mal plus sportif. J'étais dans la Toyota 86. Comme je disais, Toyota 86, qui était anciennement la Sion FRS, qui est la petite voiture sport de Toyota. Qui est une voiture, on va se le dire tout de suite.
Qui est aussi, il faut le préciser, la Subaru BRZ.
La cousine de, c'est ça, chez Subaru, la BRZ. C'est une voiture qui est fantastique. En tant que conduite, en tant que design extérieur, puis la version, moi j'avais la version TRD, fait que avec certains petits ajouts côté design, comme un aileron, et puis, tu sais, vraiment, la voiture avec une allure encore plus sportive était vraiment magnifique. Ce qu'on appelle noir corbeau, fait que c'était vraiment un noir lustré. C'est vraiment une voiture qui est super belle. L'intérieur aussi, c'est bien fait. Le seul, peut-être, petit désagrément, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce que il me semble que tu en avais parlé quand tu l'avais conduit, toi aussi, c'est le système de divertissement qui a l'air juste rajouté. C'est un peu comme dans les années 90, là, ou début des années 2000, quand on achetait une voiture, puis la radio qui était dedans faisait pas notre affaire, on allait dans un magasin, on s'achetait une radio, puis on la faisait poser dedans, puis là, on avait des nouvelles fonctions. Ben, c'est un peu ça. C'est pas comme bien intégré, comme la majorité des voitures, c'est super bien intégré dans le tableau de bord, là, c'est comme... C'est un rectangle qu'on a rajouté, là, presque carré, qu'on a rajouté dedans avec l'écran. Toutes les fonctions sont là, mais ça fait juste comme un peu, tu sais, comme rajouté. Ça fait pas comme si c'était vraiment un tout qui était dont le design était comme intégré dans la voiture. Mais c'est vraiment, pour le reste, ça fait le travail, là. C'est juste côté design. Mais le reste, le tableau de bord, les portières et tout ça, c'est vraiment super bien fait. On sent vraiment bien enveloppé. Le coffre est assez grand, mais... Les places arrière. C'est. La dernière fois que j'avais conduit ce type de voiture-là, j'avais eu la BRZ. Puis ça fait quand même quelques années, je dirais un 2 ans peut-être. Puis mon fils était plus petit. Donc, il pouvait s'asseoir en arrière, puis il n'y avait pas de problème. Mais là, mon fils a un peu grandi. Je veux dire, il n'est pas rendu format géant. Il est toujours format assez sous-compact, mettons. Mais il a des jambes et c'est le gros problème.
Tu devrais lui couper, c'est tout. Là.
Mais là, j'ai fait une blague un peu. Dimanche, on est allé au cinéma, ma femme, moi, mon fils, puis un des amis de mon fils, qui sont tous les deux formats compacts. Mais là, on se disait, est-ce qu'on prend la Leaf ou ben ma femme et mon fils n'avaient pas encore été faire un tour dans la 86. Donc, j'ai dit, on va prendre la 86. Fait que j'ai dit, on va aller faire un test pour voir si j'assois fiston en arrière de moi. Ben là, parce que c'est plus difficile pour le conducteur, parce qu'il faut que tu sois placé pour être capable de. Surtout qu'elle était manuelle, changer les vitesses, appuyer sur l'accélérateur, frein. Il faut que tu sois quand même semi-confortable, puis une distance quand même correcte pour être capable de conduire comme il faut, parce que sinon, ça devient dangereux. Donc, j'ai assis mon fils en arrière de moi, puis c'était vraiment limite. Là. J'avais le banc vraiment à côté sur ses pieds, puis il était pas capable de bouger là. Fait que là, je me suis viré de côté. J'ai dit, bon, on part dans 2 minutes, fait que attends dans le char. Parce que là, t'es temps qu'à te sortir, puis te rembarquer. Je dis, l'auto est en train de chauffer, attends dans l'auto. Fait que. Je suis allé chercher ma femme, on est revenu. Puis là, on est allé chercher l'autre, l'ami de mon fils. Puis lui, ben ma femme est capable de se mettre un petit peu plus en avant parce qu'elle n'a pas besoin de conduire. T'sais. Fait que même si elle avait les genoux un petit peu plus droits puis moins confortables, c'était moins épais. Mais ça n'a pas été une super conduite de chez nous à Dorion. Là. J'avais vraiment pas les genoux dans le front, mais presque. Là. Donc, si vous avez des enfants un peu plus vieux que, je dirais, 10 ans, puis qui sont au format géant un peu, tu sais, style comme ton fiston à toi, 10 ans, il devait faire le double de grandeur de mon fils, là.
En fait, non, mais c'est pas grave, là, c'est pas de l'histoire, mais pour ton information, mon fils a pris 9 pouces en secondaire 3.
C'est ça. Fait
que, quand il s'est pas désespéré, le tien va finir par grandir.
Non, pas sûr, parce que dans la famille, c'est pas grand-grand. Mais, fait tu sais, c'est pas fait pour... Des grands-enfants en arrière ou même des adultes, c'est non. Même si vous pensez partir de chez vous puis vous rendre au restaurant à 10 minutes de là avec un couple d'amis assis en arrière, c'est le dernier repas que vous allez avoir avec ces amis-là parce qu'ils ne voudront plus jamais aller avec vous autres dans cette auto-là. C'est impossible d'asseoir quelqu'un en arrière. C'est un 2 plus 2, mais on se le dit tout de suite, c'est les places arrière, c'est symbolique. C'est pour des questions d'assurance puis des questions d'immatriculation au Japon. Là. C'est pas des places fonctionnelles. À moins d'avoir un bébé dans un siège d'enfant, Il n'a pas besoin d'espace pour les jambes, lui. Ça se passe tout en haut. Ça, c'est correct. Mais aussitôt qu'il faut mettre des pieds à terre à l'arrière, là, si vous avez des passagers qui sont un peu grands en avant, c'est oubliez ça. Mais c'est le seul côté négatif de la voiture. C'est la seule chose. Pour le reste, ça se conduit comme un charme. J'étais sur la glace avec des pneus d'hiver, mais c'est une voiture qui est ce qu'on appelle tail happy. Hein. C'est que le derrière est hyper facile à faire déraper. Mais si vous êtes capable de la maîtriser, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir sur la glace et sur la neige avec cette voiture-là si vous y allez tranquillement et si vous savez ce que vous faites. Parce que vous pouvez la faire déraper un petit peu, la ramener. C'est vraiment, vraiment le fun à conduire. Mais c'est pas une voiture pour « Ah, je viens d'avoir mon permis de conduire, c'est mon premier hiver, je vais aller me chercher une 86. » Attends 2-3 ans. Attends de maîtriser une traction avant puis être capable de pas te planter dans un banc de neige en plein hiver. Après ça, tu iras voir ça. Mais c'est une voiture qui tient la route comme un charme. Je pensais vraiment avoir un peu plus de misère que ça dans la neige. Pas vraiment. Tu sais comment est-ce que la voiture va réagir, tu es capable de prédire un peu comment est-ce qu'elle va réagir quand tu vas accélérer. Tu le sais que le derrière va essayer de partir un peu, mais tu peux la ramener assez facilement. Fait, c'est une voiture qui se contrôle comme un champ, puis c'est une voiture qui est prévisible aussi. Si le derrière est pour partir, la voiture va te le faire savoir.
Effectivement.
Puis c'est facile à ramener quand tu sais un peu ce que tu fais.
Moi, tu vois, je ne l'ai pas eu en hiver. Je l'ai conduite en été. Je l'ai même essayé sur la piste. Et ce plaisir-là, cette maîtrise-là, tu la retrouves vraiment dans toutes les circonstances.
Ouais.
Oui, elle manque un petit peu de puissance, là, tout le monde va te le dire.
Ouais.
aimerait ça, puis dans toutes les déclinaisons. Mais honnêtement, c'est vraiment une voiture qui est le fun à conduire, qui serait prête à en prendre beaucoup plus que ce qu'on nous donne, là, mais qui est vraiment le fun à conduire.
J'aimerais vraiment ça. Je la conduisais, puis je me suis dit, tu sais, quand on est allé faire le Camphor de Porsche il y a quelques années sur une piste, me semble qu'avec des pneus à clous, cette voiture-là, sur une piste de glace, ça doit être vraiment, vraiment le fun à conduire aussi. Ou sur une piste sur l'asphalte l'été, là. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment faire.
Mais je l'ai pas fait avec la Toyota, moi je l'ai fait avec la Subaru, mais honnêtement, c'est vraiment incroyable.
Ouais. Fait que Toyota, si ça vous intéresse, peut-être l'année prochaine, vous devriez l'inscrire pour la Jacques, comme ça, on pourrait aller faire une coupe de tour de piste avec. C'est pas tout le monde qui a la chance de le faire, puis j'aimerais ça pouvoir l'amener sur la piste à un moment donné, parce que vous avez vraiment entre les mains une voiture qui est incroyable. C'est indéniable, personne peut dire « Ah, c'est pas une vraie voiture sport, c'est une vraie voiture sport à 100%. »
Effectivement.
C'est hyper amusant à conduire. J'aurais enlevé un peu de coffre à l'arrière pour donner un petit peu plus d'espace pour les jambes, pour les passagers. Mais bon, ça, c'est juste moi comme ça. C'est vraiment son seul défaut, c'est l'espace à l'arrière, parce que pour le reste, c'est comme une de mes voitures préférées à conduire. Là. C'est vraiment incroyable. C'est pas vraiment le même type de voiture. Une est une convertible, l'autre l'est pas. Mais on n'a pas le choix vraiment de les comparer à un moment donné qu'une Miata. Surtout peut-être avec la Miata RF qui est la hardtop. Là. C'est le même genre de voiture où tu n'es pas obligé de conduire vite pour avoir du plaisir. C'est des voitures qui sont un peu sous-puissantes, mais qu'un coup à conduire, ça ne dérange pas vraiment tant que ça. Mais c'est vraiment des voitures qui sont un charme à conduire. Fait que c'est ça. Allez vous en acheter une comme troisième voiture si vous pouvez. C'est clair que ça serait ma troisième voiture si j'avais le budget. Là. Tu sais, une voiture qui sert pour aller travailler, puis tu reviens, puis tu as toujours un sourire sur ton visage quand tu reviens, puis tu t'en vas travailler. Là, tu sais. Genre, le gars, je déteste ma job, mais je conduis à 86 pour aller travailler. Fait que finalement, c'est pas si pire, ça se compense. fait que c'est à peu près ça. Prix, ben, celle que j'avais, 40 096 $, qui est quand même assez élevé, mais c'est une voiture TRD, donc avec les petits ajustements Toyota Racing. Fait qu'on a des amortisseurs qui ont été changés. On a, tu sais, quelques... Puis c'est beaucoup du esthétique, là. Pas de puissance, mais des freins Brembo puis des choses comme ça. De base, j'ai pas le prix de base. Il me semble que ça commence à quoi? 26 000, 25 000?
À peu près.
Une 86 près, de base, là.
Dans ce coin-là, là.
Fait que, tu sais, vous auriez autant de plaisir avec une voiture de base, là.
Oui, parce que ça ne change rien au niveau de la puissance, tu l'as dit, là.
C'est
la même mécanique, là.
C'est ça. Peut-être un petit peu, des pneus un peu meilleurs dans le TRD, des freins un peu meilleurs dans le TRD, mais pour le reste, vous ne pousserez pas cette voiture-là à ses limites, de toute façon, même dans sa version de base. Mais si vous pensiez peut-être magasiner pour ça, là, je vous dirais, allez-y, c'est vraiment incroyable comme voiture.
Tu vois, la version de base est à 29,9.
Ah, OK. Bon, c'est ça. Mais il y a deux, je pense que chez Toyota, était-tu un peu moins cher que chez Subaru est un peu moins cher en partant.
Non. En fait, c'est juste les options qui changent.
Ouais, c'est ça. Ils ont certaines choses comme ça. Puis à un moment donné, c'était les couleurs. Subaru pouvait pas avoir de rouge, Toyota pouvait pas avoir de bleu. Mais ça, je pense que c'était les premières années. Là, c'est plus vraiment vrai maintenant. Parce que la dernière BRZ que j'ai conduite était rouge. Fait que ça a changé dans les années. Là. Mais en tout cas, peu importe. Là. C'est une magnifique et incroyable petite voiture. Fait qu'on va terminer là-dessus, Marc. On va faire une pause, puis on va revenir avec notre bloc nouvelle. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure du fameux bloc de nouvelles. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? On peut commencer peut-être avec les trois finalistes pour voiture de l'année et pour VUS ou véhicule utilitaire de l'année de la JAC, parce que ça va être nommé, les gagnants vont être nommés là, le mois prochain,
à la fin du mois, c'est ça? La semaine prochaine.
Ça passe vite. Hein? La semaine prochaine au Salon de Toronto. Pas grande surprise, je dirais. T'as-tu vraiment des surprises là-dedans?
Ben, plus ou moins, en fait, là, tu sais, Kia qui s'en sort super bien, là, parce que, bon, au niveau de la voiture de l'année, ils en ont deux sur trois, la Forte puis la Stinger, donc c'est pas vraiment étonnant. La Volvo V90 Air Design vient compléter le trio des trois finalistes du côté des voitures.
Ouais, puis la V90, quand j'ai dit tantôt, ça se conduit pour une petite voiture, une petite compacte, là, c'est la V90 Air Design que j'avais conduit au Festival des essais de la JAC, puis vraiment, cette voiture-là, là, t'es toujours en train de regarder dans le rétroviseur arrière pour voir si vraiment t'as comme deux rangées de sièges.
Ouais, ben c'est...
C'est comme... Ça n'a pas de sens, ça.
La S60 est pareil, la S90, on la sent plus grosse, mais t'as quand même ce plaisir de conduite-là.
Ouais.
Dans l'autre catégorie, ben, c'est évidemment les véhicules utilitaires et camions. Là. Mm-hmm. Mazda CX-5, ce qui n'étonnera personne parce qu'ils sont comme toujours là, c'est quand même un des excellents. Le Hyundai Kona, encore une fois, beaucoup, beaucoup de popularité pour ce petit véhicule-là au cours des derniers mois.
Puis il a gagné véhicule utilitaire sport nord-américain.
Ça a été difficile, ça?
Ça a été difficile, oui.
Alors oui, il a gagné effectivement au niveau nord-américain.
Donc,
et le troisième, c'est le Jaguar I-Pace.
Ouais.
Véhicule électrique, c'est la première fois qu'il y a un véhicule à batterie, en fait, qui se retrouve dans les finalistes de la JAC.
Ouais, et un véhicule de ce prix-là, peut-être?
Non, il y a déjà eu l'Audi R8, il y a déjà eu...
OK, ouais, c'est vrai, il y a une année que l'Audi R8 avait gagné.
On a déjà eu des véhicules dispendieux, des Mercedes, des trucs comme ça, mais dans les finalistes. Mais en tout cas, là, c'est vraiment la première fois qu'on a un véhicule à batterie. Je trouve ça quand même intéressant.
OK. Selon toi, si je te lance la question, qui va gagner voiture canadienne de l'année, puis qui va gagner véhicule utilitaire de l'année? Puis il n'y a pas de pick-up, c'est surprenant. Il n'y a aucun pick-up.
Non, effectivement. Mon Dieu. C'est dur, ça. Moi, je te dirais la Stinger.
Ouais, je suis
d'accord. Puis la I-Pace. Mais ça, c'est plus mon cœur que ma raison qui parle.
OK, mais c'est correct parce que notre cœur est à la même place pour ça.
Mais ouais. C'est sûr que le Kona a beaucoup d'avantages, notamment avantagé par son prix.
Oui.
Parce qu'on tient compte du prix au moment du classement de la JAC. Mais à mon avis, le I-Pace a des bonnes chances.
Le I-Pace vaut le montant que Jaguar demande pour, là. C'est pas... C'est 90 000 $ à peu près de base, là, mais...
Je te l'ai dit, j'ai écrit une lettre au Père Noël en décembre pour avoir un Jaguar I-Pace. Là,
c'est ça. Que... Fait que t'as des voitures qui sont à des prix faramineux qui n'ont pas nécessairement la valeur que le constructeur demande pour. C'est juste parce que c'est une voiture X qui a une espèce de ça, parce que c'est supposé valoir ça, mais... Ça n'a pas nécessairement ce montant-là en valeur réelle de comment le véhicule est complet. Le I-Pace, il vaut 100% le montant que Jaguar demande pas. Mais le Kona aussi, il y a une version électrique, il y a une version essence. C'est une voiture qui est confortable, un peu bruyant dans l'habitacle, dans son modèle à essence. J'ai pas encore essayé le modèle...
On va se calmer électrique. Sur la voiture électrique qui n'est pas arrivée encore vraiment... De façon abondante, là.
Non, il y a quelques-uns, là. Moi, je l'ai déjà réservé pour le mois de mars. Puis j'ai le high-pace au mois d'avril. Fait que j'ai hâte de les essayer. Là.
Moi, je sais que j'ai le Kona quelque part en mars aussi, là, mais j'ai pas la date précise.
C'est ça.
Non, je l'ai en février, moi, quelque part.
Le Kona?
Oui.
Ouais, c'est ça.
Kona électrique, là, mais c'est comme... J'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. Bref, ceci étant dit, ce sont les finalistes, ce sont mes prédictions.
Okay.
Toi, pour la voiture?
Ben, j'ai la même chose. C'est Stinger puis I-Pace, moi aussi.
On va voir si on est bon.
C'est mes deux coups de cœur, mais comme tu dis, on y va. Tu sais, c'est comme quand on va faire les essais. Tu sais, on essaie une trentaine de voitures, des fois plus, en 2-3 jours. Puis, oui, les voitures qui sont là sont toutes compétentes. Il n'y a pas une voiture que tu t'assois dedans et tu dis, ouais, non, tu sais, ça n'a pas d'affaire ici. Normalement, toutes les voitures qui sont là, en majorité, ont une bonne raison d'être là. Mais tu as des voitures que tu vas t'asseoir dedans puis que tu vas conduire puis que tu vas te dire, elle est spéciale. Elle a quelque chose que toutes les autres que j'ai essayées n'avaient pas.
C'est comme quand je me regarde dans le miroir.
Si tu veux. Mais, tu sais, la Forte, je l'avais trouvée excellente pour la voiture que c'est-à-dire une voiture compacte puis tout ça, c'était super bien. Mieux que les autres, oui. Mais la Stinger, c'était une petite coche au-dessus de beaucoup de choses que j'avais conduites, même des voitures plus chères. La Volvo V90 Air Design, c'est la même chose. C'est une petite coche au-dessus des autres choses que j'avais conduites. Fait que j'aime ça voir ces voitures-là ressortir. Un CX-5, ouais. C'est un CX-5. On est habitué à son comportement et tout ça. Oui, c'est un véhicule qui est plus vroom-vroom, plus amusant à conduire que beaucoup d'autres VUS. Le Kona est hyper compétent. Même comme si j'ai dit, j'ai trouvé un peu bruyant à l'intérieur. Mais le I-Pace, c'est juste une voiture d'exception, tu sais.
Effectivement. Non, ça c'est... Écoute, on parle d'un autre niveau, là, clairement. Pour moi, là, on parle d'un autre niveau.
Exactement. C'est bon. Donc, on passe à d'autres nouvelles.
Oui, d'autres nouvelles. Écoute, ça, j'ai trouvé ça bien drôle. Consumer Report qui publie un classement qui veut strictement rien dire, qui est les voitures, leur niveau de satisfaction par rapport à leur voiture.
Okay,
ils ont sondé les abonnés là-dessus pour savoir quels étaient le niveau de satisfaction par rapport aux voitures. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que dans le top 10, bon, la première, c'est la Tesla Model 3. OK?
OK.
Que les gens disent « Ah, je suis en amour et c'est ma voiture idéale et j'en ai une et jamais je ne changerai. » OK?
Ouais.
Ce qui me fait bien rire, parce que quand on regarde le classement, dans le top 10, il y a la Model 3, la Model S, la Bolt et la Prius. OK?
Qui sont toutes des voitures, la Prius Prime, j'imagine, ou Prius,
non,
on n'a pas fait la Prius, différence.
Non, il n'y a pas de différence. OK. Ça me fait bien rire parce que c'est des voitures qui, bon, d'abord, sont en nombre extrêmement limité par rapport aux autres véhicules.
Ouais.
D'autre part, c'est des voitures qui, dès le départ, sollicitent de la part de leur propriétaire un engagement.
Bon, oui, oui.
Tu sais, c'est clair. Va lire, je le dis souvent, là, mais allez lire sur les forums les problèmes que les gens ont avec le Tesla Model 3 ou avec le Tesla Model S. C'est une joke, là. T'sais, ils ont vraiment des problèmes abondants, là. Puis c'est pas parce que je suis négatif, là. Faites le tour, vous allez voir des tonnes. Mais ces gens-là sont convaincus. Ça, c'est comme à l'époque où les Volkswagen brisaient tout le temps, t'sais.
Ouais.
Puis tu parlais à un propriétaire de Volkswagen, puis il disait, c'est bien, tu sais, toi, ta Volkswagen. Alors, ça va bien, une Volkswagen. Ben, c'est vrai, j'étais allé au garage au mois d'août parce que la lumière à droite marchait plus, mais c'était rien de grave, là, t'sais. Mais ça va super bien, une Volkswagen. Ben oui, j'étais allé au garage en septembre parce que ma lumière en arrière a brûlé, mais écoute, il n'y en avait pas de problème. Puis, ouais, c'est vrai qu'en octobre aussi, ma fenêtre à droite a décidé qu'elle descendait plus, mais c'est pas grave, ça va super bien, une Volkswagen. Tu sais, il y a cet élément-là de gens convaincus dès le départ, peu importe ce qui va se passer avec la voiture.
Les évangélistes, ceux qui... Peu importe ce qui se passe, ça va toujours bien pareil.
Et dans le cas des voitures électriques, c'est souvent comme ça. Ce sont des gens qui sont convaincus. Je lisais ce matin sur Facebook un statut de quelqu'un qui racontait que elle est propriétaire d'une Tesla Model 3 et d'un Volvo, un XC90 pour sa famille.
OK.
Et bon, parce qu'elle était en famille, parce qu'il faisait un grand bout, puis qu'il faisait froid, ils ont décidé de prendre le Volvo XC90 et ils sont arrivés à l'épicerie, puis ils se sont fait engueuler par un propriétaire de Tesla Model S parce que c'était des gros vilains pollueurs. Et même elle disait, ça se peut pas que comme électromobiliste, on soit pas capable d'accepter les autres comme ça, t'sais. Qu'on soit aussi intransigeant. Alors, c'est souvent des gens qui sont très vocaux, c'est des gens qui sont très impliqués, qui sont très engagés face à leur véhicule, alors qu'il y en a 4 sur 10 qui soient reconnus comme étant les véhicules que les gens sont le plus satisfaits. Je peux pas dire que ça me surprend bien, bien. Quelle valeur ça a scientifiquement? Je te dirais pas vraiment beaucoup. Mais bon, je trouve ça assez particulier, je trouve ça très drôle. Ceci étant dit, pour te prouver la même chose, c'est que c'est vrai aussi des gens qui ont des voitures sport. Et dans le top 10, il y a les gens qui ont les Porsche 911 et les gens qui ont des Dodge Challenger.
Okay.
On s'entend pour dire que c'est pas les meilleurs. Ben, la Porsche 911, oui, là, mais ça prend une personnalité particulière et un budget particulier pour l'avoir. Sauf que, évidemment, c'est... Comment je pourrais dire? C'est encore une fois, ce sont des gens qui sont profondément convaincus. Moi, j'adore le Challenger, comme toi, t'aimes la Mustang. Est-ce que je peux te dire que c'est la meilleure voiture au monde? Ben non, pas nécessairement, mais j'aime cette voiture-là profondément. Là,
oh ouais, je vais dire la même chose pour la Mustang. C'est une voiture que j'aime bien, mais c'est pas la meilleure voiture au monde, c'est sûr. Là.
Non, c'est ça. Ben, tout ça pour dire que donc on est là-dedans. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que tu as d'autres types de véhicules quand même dans le top 10, dont la Kia Stinger et la Toyota Avalon. Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu jeté par terre. C'est une excellente voiture, évidemment, mais encore une fois, c'est le genre de voiture qu'on voit à peu près jamais sur nos routes. Un petit peu plus avec le nouveau modèle, mais quand même pas de façon particulière. Il y a aussi la Chevrolet Corvette, ce qui vient confirmer ce que je te disais, et la Genesis G90. Ça, c'est une belle surprise parce que c'est quand même un véhicule qui est relativement nouveau et plutôt intéressant en termes de coût. Donc, je pense que c'est un classement qui est amusant à regarder, mais qui scientifiquement a une valeur extrêmement limitée.
On prend ça un peu avec un grain de sel.
Ouais. C'est parce qu'on le sait.
Ou la salière complète.
Tu sais, c'est parce que quand t'aimes quelque chose, tu vas le dire bien fort. Quand t'aimes vraiment pas quelque chose, tu vas le dire bien fort. Entre les deux, là...
Les gens sont plus... Ouais.
Pour beaucoup de gens, une voiture, ça t'amène du point A au point B, puis t'es juste bien content. T'sais.
Ouais, c'est ça. C'est pas une question de passion pour tout le monde.
En autant que tu fais pas trop de détours par le garage, t'aimes bien ta voiture en général.
C'est ça. Quand ton garage t'invite à leur party de Noël, t'as un problème.
C'est ça. Juste pour information, la voiture la moins satisfaisante selon ce sondage-là de Consumer Report, c'est l'Acura ILX.
Ah, OK.
OK.
Ouais, on l'avait regardé dans les rapports de fiabilité. Acura, t'es pas...
Non, mais là, on parle même pas de fiabilité. Là. On parle de char. Ça va avec le plaisir de conduite, ça va avec la satisfaction de conduite. Il n'y a rien de vraiment scientifique. Là. C'est pas nécessairement le nombre de trucs brisés. Là.
Non, mais c'est sûr que si t'es toujours au garage avec ton auto, ta satisfaction va être affectée aussi. Là,
c'est ça, exactement.
Ouais, OK, c'est bon.
Dans la série des autres nouvelles, ben, cette semaine, c'est le salon de Chicago aussi. Chicago qui nous amène d'autres éléments, d'autres véhicules, entre autres la nouvelle Mazda MX-5, 30e anniversaire, qui est d'un beau orange.
Oui, c'est la seule couleur pour le 30e anniversaire?
Oui, puis c'est vraiment fait pour ça, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose, on n'a rien changé du point de vue mécanique, là. C'est strictement des apparences qui ont changé. Il y a aussi Nissan Qashqai 2020 qui fait son entrée à Chicago, la Jetta GLI, le Kia Sportage 2020, donc des véhicules qui viennent de rentrer à Chicago, dont on parlera davantage au cours des prochaines semaines. Mais donc Chicago qui est comme d'habitude, mais qui en fait a présenté pas mal de VUS comme d'habitude, mais qui a présenté quand même quelques nouveautés véhicules. C'est quand même intéressant de voir ça là, parce que souvent Chicago c'est le salon du camion en fait.
Ouais, pick-up et VUS.
C'est ça. Alors, on s'attendait un peu à pas mal n'importe quoi, mais j'avoue que j'ai été étonné de voir autant de voitures faire l'objet d'un dévoilement à Chicago cette année. Donc, voilà.
OK.
Si on continue, bien évidemment, toujours à Chicago, il y a le nouveau Tacoma, Toyota Tacoma amélioré qui a été dévoilé aussi, tout comme la version HD du Chevrolet Silverado. Donc, on est vraiment dans le pick-up puis dans la camionnette. Parlant de pick-up et de camionnette, Ram qui a présenté cette semaine à son tour son Aion multifonction. Tu te rappelles que chez Chevrolet, ben chez GMC, on a une espèce de Aion qui se défait en morceaux littéralement pour devenir toutes sortes d'affaires.
Oui, t'en parlais la semaine passée.
C'est ça. Ouais. Mais Ram nous a présenté une version où, en fait, c'est comme des portes de saloon, littéralement. Le Aion est coupé par le milieu. Donc, tu peux l'ouvrir partiellement de chaque côté ou tu peux l'ouvrir au complet. Encore une façon de faciliter l'accès, je trouve ça intéressant quand même comme principe là, parce que je trouve que c'est quand même bien pensé comme idée.
Oui, mais à un moment donné, jusqu'où tu veux évoluer avec un pick-up? Tu peux pas changer grand-chose, ça te prend une boîte à l'arrière, ça te prend de la place pour les gens en avant, fait qu'il faut que tu évolues sur la facilité d'accès à l'espace de chargement et ces choses-là. Puis on est rendu là, c'est bien.
Oui, exactement. T'as pas bien le choix. Fait que y a ça, puis enfin, tu vas être heureux d'apprendre que la Tesla Model 3 est disponible à moins de 35 000 $ US.
OK. Le modèle de base est finalement sorti?
Non, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont baissé les prix. Ah. Puis ils tiennent compte, pour tricher un peu, ils tiennent compte de l'économie de carburant ainsi que d'un 8 000 $ de réduction donnée par le gouvernement. Donc, dans les faits, elle vaut 46 000 $. Mais on dit que tu peux l'avoir pour moins de 35 000 si tu enlèves tous ces éléments-là, ce qui est, à mon avis, de la triche. Mais ça, c'est ma perception à moi. Voilà, mon cher.
Ouais, c'est bon. Ouais, parce que c'est pas vraiment 8 000 de rabais. Parce que c'est le montant. Non? Et ici, c'est le montant plus les taxes moins le rabais. Donc, t'as pas un rabais en partant. Là.
Puis là, on parle aux États-Unis, hein, 35 000 et moins. Là. Fait que, on parle donc d'un rabais qui n'est pas applicable dans tous les États. Puis quand tu commences à calculer la supposée économie de carburant dans le prix de vente, il y a comme un problème. Là. Ça ne marche pas comme ça. Là. Ouais. Parce que c'est vrai si tu fais, mettons, 30 000 km par année, mais c'est pas mal vrai si t'en fais, c'est moins vrai si tu en fais 3 000.
Ouais,
fait que tu ne peux pas te baser sur l'économie de carburant pour réduire le prix d'un véhicule à l'achat. Ça ne marche pas comme ça.
Ouais, c'est un peu jouer avec les chiffres. Même
un peu.
Beaucoup, mais bon.
Oui.
Parfait. OK, Marc, c'est bon. Donc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
Ben, ma page Facebook, c'est pas mal la meilleure façon. Sinon, ben, bien sûr, ma page Facebook de Marc Bouchard. Sinon, marcbouchard.ca qui est mon blog. Twitter, Marc souligné Bouchard. Instagram, c'est le contraire, c'est Bouchard souligné Marc. Et bien sûr, info@saroulradio.com qui est l'adresse que l'on partage, toi et moi, et à laquelle on est supposé répondre tous les deux.
Oui, c'est en plein ça. Moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Scalazormo. Sur Facebook, c'est Luc Desormo. Sur Instagram, c'est Desormo Luc. Et puis, j'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Réalité Augmentée que j'anime avec mon ami Jean-Benoît Gagné, parfois seul. Normalement, c'est Jean-Benoît qui anime, puis sinon, c'est moi qui anime. Fait que d'une semaine à l'autre, on parle de cinéma, de jeux vidéo et de technologie, et de tout ce qui est finalement divertissement. Et puis, si vous voulez écouter Ça roule radio, ben, vous pouvez nous télécharger directement du site saroulradio.com où toutes les émissions sont disponibles. Sinon, ben, il y a iTunes, il y a Google Play, il y a Spotify et puis il y a deux radios web qui nous diffusent allègrement durant la semaine et durant le week-end, qui est sportradio.ca et Radio Média Plus. Ça fait pas mal le tour.
Oui, effectivement.
Donc, merci Marc d'avoir fait encore une fois cette émission avec moi cette semaine. Ce fut très agréable. J'espère que ce fut agréable aussi pour les auditeurs, surtout, parce que c'est le fun qu'on ait du fun ensemble, moi et Marc, mais si les autres trouvent ça plate, c'est un peu ordinaire. Et puis, on vous dit ben, bonne semaine, puis on se parle la semaine prochaine pour une autre émission de Ça roule radio. Bye tout le monde.
Bye bye.